Bienvenue dans la deuxième partie de la boîte de jazz. Bienvenue à tous. Nous sommes toujours avec notre ami Julien alias Jules Trène qui vient de sortir un album qui s'appelle Création. Magnifique album que je vous recommande en compagnie de Frédéric Dolsnitz, Laurent Sarrien, Renaud Janssens, Philippe Brassoul, Cyril Calamini et bien d'autres. Et nous allons tout de suite écouter donc Jules Crane, Julien Doyer, Ndiaye, pardon, extrait de cet album dans un morceau qui s'appelle, un morceau bien nommé qui s'appelle Africa.
Thank you.
C'était donc notre invité Julien Gaï, dit Jules Crane, extrait de son album Création, le morceau Africa. Alors, mon cher Julien, justement, on vient d'écouter Africa, qui me rappelle un titre plus connu, enfin, du moins, assez connu, de John Coltrane, qui s'appelle Africa Brass, et le morceau s'appelle d'ailleurs Africa. Alors, je voulais te demander pourquoi Coltrane, par rapport à toi, est-il incontournable ?
Alors, Coltrane, pour moi, est incontournable dans le sens de ses morceaux, je trouve qu'ils sont très envoûtants. Et y a une anecdote que ma grand-mère disait, et je suis tout à fait d'accord avec elle, dans le nombre d'heures qu'on a passé à écouter Coltrane ensemble, c'est le son tout simplement unique de son saxophone par rapport aux autres saxophonistes. Coltrane avait vraiment un son à part.
Particulier, en tout cas.
Voilà, un jeu à part aussi. J'ai en mémoire un solo qui m'a toujours bouleversé et qui me bouleverse toujours autant, une version de So What en 1960 à Paris, où Coltrane est sifflé.
Oui, je connais, c'était en 1960.
Il y a 60 et il y a 61.
C'était au théâtre de Champs-Élysées.
À l'Olympia.
Ou à l'Olympia, merci.
Et c'est So What, en fait. Et Maï, c'est vraiment tout tranquille. C'est vraiment. Lui, il est vraiment dans le lyrique. Et Coltrane, c'est le jeune homme en colère, quoi. Il arrive et ça part tout de suite très, très fort au niveau de l'énergie. Et c'est en ça qu'il est incontournable pour moi, d'autant plus que c'est quelqu'un qui était capable de partir vraiment dans des solos très profonds, dans des improvisations.
Je vais te raconter une anecdote à ce sujet.
Et en fait, il était capable d'aller très loin, de partir très haut, et tout simplement, d'un seul coup, il revenait à lui, et il nous ramenait là où il nous avait, là où on était parti. Et en ça... ça fait de lui un... Et puis il y a autre chose, une autre partie qui est un peu plus sombre à la fin de sa vie, où il est parti complètement dans le free jazz.
Oui, tout à fait, avec les albums Expression.
Il a ouvert la voie à Archie Shepp, Pharoah Sanders,
qui joue d'ailleurs avec lui à la fin de sa vie.
Voilà, Ornette Coleman, tous ces gens-là sont qui jouent avec lui. Et donc pour moi,
Fire Music, c'est un album de Coltrane. Avec Archie Shepp, c'est l'inverse, je me rappelle pas.
Voilà, et puis il y a un autre truc aussi, autre chose qui le rendait complètement différent des autres. Alors, bien sûr, les autres, je ne doute pas du tout qu'ils étaient acharnés de travail, mais Coltrane, c'est quand même quelqu'un qui faisait 12 heures par jour.
Oui, je sais. Donc, et d'ailleurs, voilà. Miles, je vais te raconter deux anecdotes que tu ne connais peut-être pas. La première, c'est que, puisque tu en parlais, surtout en parlant de ce concert à l'Olympia de 1960, Miles lui dit « John, pourquoi ces solos sont-ils si longs ?» Il dit Coltrane répond « Écoute Miles, quand je mets le sax dans la bouche, je ne sais pas m'arrêter. » Et Miles lui dit à ce moment-là « John, si tu enlevais simplement le sax de la bouche. »
Je la connais un petit peu.
Tu
ça.
La connais,
il y a une autre chose qu'il dit aussi. À un moment donné, à la fin de sa vie, il dit il y a tellement de misère et de pauvreté et d'enfer sur cette terre que moi, je veux être le contraire. Je veux être le contraire. Je veux être celui qui, quand j'interprète un air. Un ami a besoin d'argent, il recevrait tout l'argent dont il aurait besoin. Ou bien, si quelqu'un est malade, j'interprète un autre air. Et à ce moment-là, il serait guéri. Voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment connecté avec le divin. Et je me souviens dans le documentaire de Arte, à l'époque, que j'ai beaucoup regardé. À la fin de ce moment-là, moi, ça me faisait toujours pleurer. Même maintenant aussi, parce que c'est tellement fort. Et on voit Coltrane dans une image de fumée, de cigarette, comme ça. Et à ce moment-là, quand il dit « je veux être le contraire », il balance Naïma. Et là, c'est Naïma qui était sa deuxième femme.
Alors, je vais te poser une autre question. Je vais te poser deux autres questions. Excuse-moi. Donc, évidemment, Coltrane incontournable, influence majeure. Mais les autres, et Wayne Shorter, que penses-tu de Wayne Shorter ? Wayne Shorter est une grosse influence qu'on entend dans ton jeu aussi.
Alors Wayne Shorter, j'adore parce que c'est un compositeur exceptionnel qui a fait des œuvres très variées, je pense à Speak No
Qui est
Evil.
mort il y a quelques mois seulement.
Voilà, qui bah, évidemment m'a beaucoup affecté. Nightdreamer, Footprints, Yes or No, enfin il y en a Black Nile.
Énormément,
Voilà,
énormément.
et il avait un pareil aussi, lui aussi, un jeu très 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 à lui, avec un son très personnel. Et en quoi aussi il est incontournable, c'est voilà la variété immense de ses compositions. Je pense à une balade qui est vraiment vraiment un chef-d'œuvre, c'est Infantis.
Ah
Pour moi,
oui,
Infantis,
magnifique, magnifique balade, je
c'est
suis tout à fait
extraordinaire, quoi.
d'accord.
Voilà. Et puis il y a un disque
Une autre
moi
idée
que
ici.
j'adore vraiment beaucoup, c'est Juju. Cet
Ah oui.
album est extraordinaire où justement Wayne reprend exactement l'équipe de Coltrane, fait un copier-coller. Et il y a un morceau que bah il y a Déluge et il y a Mahjong qui est extraordinaire. Mahjong là. Ça,
Merci beaucoup. Et alors, Miles Davis, là, c'est le problème, quelque part. C'est un problème, Miles Davis, avec son évolution qui a été constante à la fois et différente, qui l'a amené à plein d'endroits. Tu me diras Wayne Shorter aussi,
Ouais,
puisqu'il y a eu
mais
dans les
tous,
portes.
mais tous en fait, finalement tous, parce qu'on regarde même à l'image de Train au début où il jouait avec Dizzy Gillespie, où il jouait même dans la marine quand il avait 19 ans, il jouait de la clarinette au début, enfin, et l'évolution spirituelle et après la quête vers le divin, parce que de toute façon il savait qu'il était condamné, donc c'est là qu'il a enregistré une vingtaine d'albums en l'espace d'un an. Mais Miles Davis, bien sûr, Miles Davis. Alors, comme disait tout le monde, Miles est un type assez bizarre, il ne parle pas beaucoup. On a toujours l'impression que ce qu'il fait ne plaît pas aux autres. Mais au final, Miles était aussi un personnage. Moi, je sais que mes parents m'ont raconté en 91 quand ils l'ont vu, ou 90. Je crois que c'était vraiment peu de temps avant sa mort. Et il
Je
revoit
crois
Miles
l'avoir vu d'ailleurs, c'est pour ça.
à Signy, à Nice, et il revoit Miles jouer en tournant le dos au public. C'était
Oui,
quand même
oui,
assez
oui.
particulier. Mais Miles, bien sûr, c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé aussi, et c'est un trompettiste exceptionnel. D'ailleurs, dans l'album, il y a un morceau qui s'appelle Love, qui est le quatrième morceau, qui est très inspiré de Flamenco Sketches, cette
C'est un très beau
balade
morceau de Miles
exceptionnelle.
Davis d'ailleurs, qui est
Ouais.
lui-même inspiré de la musique classique espagnole, un peu
Ouais,
latine.
puis il y a aussi beaucoup de. Parce que je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que c'était des gens qui étaient assez aussi tournés vers la tauromachie, les traditions taurines. Et il y a un rapport clairement avec ça, quoi. Avec toute cette tradition un peu espagnole.
Eh bien, merci beaucoup. On t'écoute tout de suite dans Love.
Thank you.
Cher Julien, quelques renseignements pour nos auditeurs, bien sûr. Ce disque, donc création de Jules Treine, ce nom Jules Treine, bien sûr, la création comprend 11 morceaux. Donc, ce qui veut dire que les morceaux sont assez courts. Pourquoi y a-t-il eu ce désir de morceaux courts, plutôt? Que on écoutait Coltrane, on écoutait Wayne Shorter, c'est des gens qui font des morceaux assez longs. Et dans ton cas, ce sont quand même des morceaux assez courts, puisqu'ils dépassent rarement les 6 ou 7 minutes.
Alors, tout simplement, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2023. Moi, j'ai conscience que le jazz, même s'il est joué par pas mal de jeunes dans les conservatoires, on va pas se mentir, c'est pas une musique qui est en avant du tout. Elle est pas médiatisée, très peu. Au niveau de la radio, y a TSF qui fait un très bon job, FIP et tout, mais en dehors de ça. Donc en gros, c'est l'objectif de ce disque. Bon, déjà bien sûr, c'est de diffuser ma propre musique et de finaliser, de valider un premier outil professionnel, mais au-delà de ça, l'objectif c'est d'essayer de partager cette musique avec des auditeurs, auditrices qui ont pas l'habitude du jazz, qui connaissent pas cette musique, et donc pour éviter aussi de tomber dans les solos interminables et de d'avoir un jazz quand même accessible, d'où cet album. On pourrait presque même le classer, et je suis assez d'accord avec l'analyse de Jean-Pierre qui a fait le son avec moi. On pourrait presque le classer certains morceaux en world music, en musique du monde, dans le sens où c'est un jazz vraiment très accessible, très doux. Et l'objectif aussi, bien sûr, c'était de que ce soit varié. Voilà.
Ce qui est le cas, je dois l'avouer. C'est vrai qu'un disque, c'est un peu une carte de visite. Est-ce que tu le présentes comme ça? Est-ce que tu
Alors,
vas le...
ouais, il y a une carte, voilà, c'est ça, il y a le côté carte de visite, etc. Et il y a aussi l'objectif, bah, c'est de jouer, tout
Oui, bien sûr.
simplement, de
C'est pour
jouer
ça que
sur
j'allais
scène.
te demander, est-ce que tu vas le présenter aux
Bien
programmateurs
sûr, bien sûr.
des clubs, des festivals,
Bien sûr,
etc.
l'objectif, c'est de tourner dans les festivals. On a deux belles dates. On a la date du 24 novembre, du vendredi 24 novembre à Saint-Raphaël, qui va être avec la Casa Jazz, qui va être génial. Donc ça, encore une fois, je sais qu'il m'écoute. Donc chez Bernard, je pense bien évidemment à Bernard Salignon, à toute la Casa Jazz que je remercie du fond du cœur. Grâce à eux, on va pouvoir s'exprimer sur scène.
Ça sera donc le 24 novembre à la salle Félix Martin à Saint-Raphaël.
Voilà, c'est ça. Donc là, j'invite évidemment tous mes amis, filles et garçons.
Surtout
Copains
filles.
d'enfance, ceux dont on s'est perdu de vue à venir. Et on aura aussi une date importante à Paris.
Le 24 novembre, donc.
Alors là, voilà, le 24 novembre, c'est à Saint-Raphaël. Et le 18 janvier, ce sera au Sunside,
Ah
à
oui,
Paris.
club. Très connu, très bien connu.
Voilà, on commence avec ces deux belles dates. Et bien sûr, l'objectif, c'est de se faire connaître. Mais au-delà de ça, moi, mon message aujourd'hui, c'est d'inviter les gens à mieux connaître le jazz, qui est une musique magnifique que je défendrai avec corps et âme toute ma vie. Même si je fais d'autres choses, comme beaucoup de musiciens, je suis obligé de faire du corporate, de faire de l'événementiel. C'est important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, cette musique-là, pour s'exprimer dans cette musique-là, déjà de un, faut être connu. Et c'est vraiment pas du tout facile de percer la couche et de jouer dans les festivals. Il y a beaucoup de monde, peu d'élus. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait tout simplement le choix de continuer à bosser à côté l'hiver, pour mes besoins personnels. Voilà.
On est obligé de te donner raison. Et c'est vrai que là, je te parle en tant que jazzman. Est-ce que tu as des propositions pour cet été, justement, sur les festivals, les choses comme ça?
Alors pour l'instant,
Bon, c'est un peu tôt, je te l'admets.
on va dire que c'est un
Je
peu tôt,
l'admets, pardon.
mais il y a des projets. On a postulé à Ramatuelle, Jazz à Ramatuelle. Il y
Ah,
a
c'est pas
Jazz
mal,
à
ça.
Saint-Raph qu'on va relancer aussi. Je pensais aussi à Jazz à Cavalaire. Il y a aussi un petit, il y a pas mal de petits festivals dans la région. Il y a Jazz à Payon aussi
Oui, que je
avec
connais,
Alban.
oui, bien sûr.
Voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Il y aura certainement un concert, certainement du côté de Saint-Raphaël, je pense, un autre concert avec la Casa Jazz, même s'il n'y a rien de décidé encore. Et en dehors de ça, on va essayer aussi un petit peu du côté de chez Cyril dans le Nord. Voilà, on est à deux, on travaille à deux avec Cyril là-dessus. Plus Camille qui nous aide beaucoup, mon attaché de presse que je remercie beaucoup du fond du cœur, qui a fait un travail extraordinaire, puisqu'on a quand même été disque du jour, c'est pas rien, à TSF Jazz le lundi 23 octobre.
C'est pas mal du tout.
Donc c'est très très bien, ouais.
Ouais.
C'est très encourageant, ça fait vraiment plaisir.
Et les grands festivals de la Côte d'Azur, puisque nous adressons en particulier aux auditeurs, pardon, de la Côte d'Azur, même si pas seulement,
Ah bah.
Nice et
On
Juan-les-Pins.
va pas se mentir, clairement, c'est un rêve de jouer à Juin-les-Pins, Nice Jazz Festival et Jazz à Juin, bien sûr. Pourquoi pas Vienne aussi. Enfin, de toute façon, je pense qu'avec cet album-là, très clairement, tout en restant modeste, hein, bien sûr, parce qu'il y a de très bons albums de jazz d'autres artistes que j'ai entendus, Ed Motta et d'autres. Voilà, et donc, en parlant d'Ed Motta et tous ces grands artistes comme Baptiste Herman et comme plein d'autres, je pense tout simplement, en toute modestie, Avec cet album-là, on peut prétendre à jouer un peu partout.
Dans
Parce que,
tous les endroits, tous les
voilà,
clubs et tous les
à
festivals.
l'image de musiciens quand même assez exceptionnels comme Fred Dolsnyst et d'autres qui ont déjà quand même pas mal d'albums à eux dans leur tiroir, on va dire.
Fred Osnitz, officiellement, on n'en a que deux sous son nom.
Ouais,
Après, il
enfin, il a
participe
parti.
à
Voilà.
une myriade d'albums.
Voilà, je pense à Renaud Janzan qui a enregistré avec je sais pas combien d'artistes, Cyril Galamini qui est aussi un big band aussi, qui est énorme. Il y a Monica Cabacele aussi, la
Et dont
chanteuse.
je voulais parler d'ailleurs. Comment avez-vous réussi? Je sais que c'est l'ami de Cyril. C'est comme ça que vous avez réussi à
Ouais,
l'avoir sur le disque?
alors l'histoire de l'album, elle est très rigolote, on peut en parler juste 2 minutes. C'est rigolo parce que l'année dernière, quand on s'est réunis le 8 août pour les premières sessions. Donc la première session, le 8 août 2022, on a enregistré à Cagnes-sur-Mer Le Petit Parapente Alpin, Tristesse, Love, et on a enregistré une deuxième version du Parapente Alpin qu'on a gardé,
Oui,
parce que
qui est sur
moi,
le disque d'ailleurs.
voilà, que je voulais, qui est une Eternal Tech, qui est un bonus track. Et en fait, à l'époque, c'était rigolo parce qu'on avait enregistré ce projet-là dans un objectif d'EP. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'ai commencé à faire les masterings des EP et tout, j'ai créé une cagnotte pour financer le projet sur Kiss Kiss Bang Bang sur Facebook. Et lors de cet épisode, Cyril m'a dit, à juste titre, il m'a dit, écoute Julien, c'est ridicule, on va pas faire ça. Si on fait ça, on fait un album. Et effectivement, il a eu raison parce que les bandes étaient déjà très très bien. Donc du coup, le 20 février, on s'est re de nouveau tous rendus disponibles là-bas à Cagnes-sur-Mer et on a enregistré tous les autres morceaux, donc For Steve, Africa, Duplex, Les Alpes. Et Mr. Day. Et donc, comment ça s'est passé? Bah, l'anecdote, elle est rigolote. C'est qu'en fait, moi, j'ai écouté peu de temps avant. Je savais que Monica allait faire un album qui est magnifique, Gréco-futurisme. Et j'ai beaucoup aimé sa voix. Et le 25 août, l'année dernière, ils ont joué à Jazz Olympia à Nice.
Oui, mais...
Et voilà. Et j'ai fait une jam session avec eux. Et quand j'ai écouté sa copine chanter, j'ai dit non, mais c'est elle qu'il faut sur l'album. Parce que on n'avait pas de chant sur l'album, c'était que de l'instrumental. Et en fait, tout simplement, 3 jours avant l'album, on s'est mis d'accord que sur les Alpes, on allait arranger le morceau de telle sorte que Monica pose sa voix dessus. Et c'est réussi parce que pour moi, les Alpes, c'est le 10e morceau de l'album, c'est un chef-d'œuvre. Je sais que c'est le morceau préféré de Cyril et de Monica, mais
C'est un des miens aussi, je dois
ouais,
dire.
les Alpes, il est voilà.
J'ai eu la chance d'entendre Monica avec Cyril d'ailleurs l'été dernier dans les After Jam du Radisson que tu connais bien sûr,
Ouais, j'y
où il y
étais.
avait beaucoup de musiciens américains qui jouaient au Festival de Nice qui sont venus faire le
C'est
bœuf,
ça.
même parfois de Jouan les Pins qui sont venus directement
Ouais.
faire le bœuf. Et j'ai entendu Monica à cette occasion.
C'est pluie cristalline, elle devient, elle revient, comme de flocons roses. Ma fenêtre s'est peinte en blanc, chaîne de sentiments prédominants. Jusqu'au sommet de la montagne, je veux voir encore là où l'air s'enfuit, là où l'eau se coule dans le cœur des hommes. Je vole, mon âme se répand dans ce aussitôt disparu. Lui cristalline, elle devient, elle s'en va comme une poudre.
Simplement te demander, mon cher Julien, là on change complètement de sujet, qu'est-ce que tu penses de quelques grands saxophonistes, en particulier des altos, alti, si tu préfères, quelle est ton opinion en tant que musicien, saxophoniste, sur ces grands musiciens qui ont marqué l'histoire du jazz, que sont Dexter Gordon, Charlie Parker, Jackie McLean et Art Pepper. Voilà.
Bah, que je les aime tous.
Tu prends ton temps, réponds, tu
que,
peux détailler.
Que je les aime tous, vraiment tous. Vraiment, ils sont tous exceptionnels. Bon, moi, j'ai une. À l'image de Baptiste et de beaucoup d'autres, j'ai vraiment une. Je pense que mon saxophoniste altiste préféré, ça reste Julian Cannonball Adderley.
Julian Cannonball
Adderley. Dans le sens où ce génie, parce que c'est un génie. Il avait déjà un son à lui et un phrasé, un détaché. C'était vraiment exceptionnel.
Il a fait beaucoup de rhythm and blues, d'ailleurs.
Voilà. Après, il y a Johnny Hodges aussi, qui est monstrueux. Il y a évidemment Charlie Parker, parce que ça, c'est incontournable, avec des thèmes extraordinaires. Je pense à Donnelly, je pense à Now's the Time. Je pense à...
Hot House,
je pense à Ornithologie. Ornithologie aussi. Et bien sûr, alors, il y a un morceau de Cannonball Adderley que j'adore avec Bill Evans qui s'appelle Toy. qui est excellent aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller chercher il y a de quoi faire. Toy, T-O-Y, avec Bill Evans. Et il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est Kenny Garrett.
Ah oui, magnifique.
Que j'ai vu l'année dernière.
Il est toujours vivant, lui, par contre. Hein. Voilà. À ses autres.
Et aujourd'hui, si on se projette aujourd'hui dans le... Dans...
67, mais il est toujours vivant.
Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, le saxophoniste qui réunit un peu tous ces gens-là dont on a énuméré, c'est un peu Baptiste Herman.
Ah, Baptiste Herman. Voilà.
Pour moi, c'est...
Magnifique. Un ami, en plus.
Ouais, pour moi, c'est le meilleur saxophoniste français. Pour moi, hein. Après... Voilà,
pour moi aussi.
Qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas, il est techniquement, il est exceptionnel.
Ah ouais,
et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est vraiment un super gars. Et peut-être que dans l'avenir, on fera des choses ensemble. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il résume un petit peu, Baptiste, il résume un peu tous ces gens-là. Il a du par cœur en lui. Il a beaucoup, beaucoup de Cannonball Adderley.
Cannonball, énormément. Oui.
Voilà. Et il y a aussi, alors si, il y a évidemment dans les saxophonistes actuels, il y en a un que j'ai beaucoup aimé à Paris quand j'ai fait la jam, c'est Luigi Grasso.
Ah oui, je connais. Oui.
Luigi Grasso, monstrueux. Voilà.
Je t'avais posé la question sur
Art Pepper. Et Plume aussi, Plume.
Ah oui, je connais Plume, oui, je connais Plume. Non, je ne me souviens plus le nom, le vrai nom, en fait.
Je ne sais pas non plus, mais je sais que c'est tout Plume.
C'est voilà. Ça. Et Art Pepper, que penses-tu d'Art Pepper?
Bah, magnifique.
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 Grand saxophoniste souvent oublié, que j'ai eu la chance de voir lors de son retour à Nice, et à Pepper qui a écrit un livre magnifique que tu dois connaître d'ailleurs, qui s'appelle Straight Life.
Ouais, il y a aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a un disque où il est avec Pepper Adams aussi.
Oui, tout à fait. Oui.
Que j'adore.
Ouais.
Le bariton, lui. Art Pepper, ouais, voilà. Non, c'est... Et puis, alors, si, il y en a un aussi qui me revient tout de suite là, c'est Paul Desmond.
Ah, bien sûr.
Bien évidemment.
Grand saxophoniste, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, s'ils nous écoutent, ça m'étonnerait. Mais néanmoins, Paul Desmond était le grand saxophoniste du quartet de Dave Brubeck. Et voilà. Il a écrit le fameux Take Five.
C'est ça. Là, on parle évidemment de saxophoniste alto. Hein. Rien à voir avec les ténors, mais, mais des grands de l'alto, ouais, bien sûr.
On a commencé par un ténor quand même, puisqu'on a commencé avec Dexter.
Ah bah Dexter, il y a évidemment, c'est pareil, je fais un peu de pub pour lui, mais même s'il est plus là, c'est Soe Khalifa. Moi j'adore ce morceau.
Ah oui, mais j'adore voilà, Dexter.
Soe Khalifa. Bon après il y a
toute cette, Apple.
Voilà toute cette manière de phraser ce son aussi très profond qui m'a beaucoup énormément influencé aussi. Moi j'ai beaucoup relevé Dexter aussi, hein, beaucoup. Et bien sûr j'ai eu aussi ma phase comme tout le monde je pense Breaker. Breaker, Bob Minzer,
oui.
Et il y a aussi un musicien dont je pense aussi auquel faut que je parle parce que c'est un honneur pour moi de jouer avec lui parce que Renaud est indisponible pour le 24 novembre et c'est donc Nicolas Folmer qui va le remplacer.
Que je connais, que nous connaissons très
voilà,
bien.
Que dire de Nicolas Folmer voilà, grand musicien que j'admire beaucoup.
Et
c'est un honneur de jouer avec lui à Saint-Raphaël. Et c'est marrant parce que Nicolas Folmer, c'est pareil, ça fait partie des musiciens que je regarde, que j'écoute beaucoup avec ma mère. Et on est allé le voir plusieurs fois. Et moi, je l'ai rencontré au Festival de Jazz de Saint-Louis en 2017. Et j'aurais jamais cru que 5-6 ans après, on jouerait ensemble pour mon disque. Comme quoi, voilà.
Comme quoi, tu vois, ça va se faire avec Baptiste Herman aussi, tu vois.
Peut-être, ouais, peut-être un jour. Alors, c'est vrai que le budget était serré pour inviter tout le monde, mais si je m'écoutais, j'inviterais tout le monde à jouer avec moi. Parce que voilà, la musique, c'est la famille, quoi.
Mon cher Julien, et maintenant, nous écoutons Equinox, une composition de John Coltrane. Thank you. Merci, mon cher Julien. Merci pour d'avoir été notre invité dans la boîte de jazz. Et je te souhaite le meilleur dans tes aventures musicales à venir. Et je vous répète, écoutez ce disque création publié chez Jazz Family, disponible actuellement. Ne ratez pas un concert de Julien Ndiaye, dit Jules Train. Et merci à tous d'écouter La Boîte de Jazz. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, mon cher Gilbert. Bah, voilà, j'ai symboliquement choisi pour le dernier morceau une version de Tristesse. Une composition très spéciale pour moi que j'ai écrite dans un moment particulier de ma vie. En 2014, et donc c'est un enregistrement live du 19 octobre 2022 en quartet avec Philippe Brassou, Fred Delsnis, Laurent Sarien à Félix Martin à Saint-Raphaël, là où nous allons jouer le 24 novembre.
Voilà. Le 24 novembre. Merci encore, mon cher Julien.
Vous.
Merci à David pour sa technique et ses bons conseils.
Merci David et merci
au revoir.
Gilbert.
Je vous dis au revoir. Et on se retrouve bientôt pour une autre boîte de jazz.